Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez tous les jours sur France Culture, du lundi au vendredi en tout cas. Une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois, Margot Loridon, Bertie Bourdon et Rosalie Suc, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Pascal Baudin. Troisième volet de notre série consacrée aux forêts. Lundi, nous avons parlé des cultures agricoles qui grignotent la forêt et la fragilisent. Mardi, nous nous sommes intéressés au rôle de la Chine dans le commerce du bois. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans les forêts devenues les repères de groupes armés, des FARC au Mai Mai, la jungle, repère des conflits armés. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Je veux arriver plus vite à la forêt de Madawai.
Hein ? Ils sont cachés dans la forêt pour venir nous attaquer.
Black Dog, est-ce que vous m'avez reçu? L'ennemi se retire vers Torche. Accélérez le mouvement vers Torche.
Quand les avions militaires sont passés, nous avons entendu des tirs. Les soldats de Boko Haram nous ont dit de rester devant eux pour servir de bouclier humain. Nous avons refusé. Ensuite, on a entendu des balles siffler autour de nous. Ils ont commencé à fuir et nous nous sommes retrouvés toutes seules.
Jusqu'à présent, nous avons pu enlever pas moins de 14 camps de Boko Haram dans la forêt de Sambisa. Et en une semaine seulement, nous avons été en mesure de sauver plus de 1880 personnes qui étaient retenues contre leur volonté par le groupe terroriste.
Ça ne finira jamais. Ils sont encore partout dans la forêt. Il y en a tellement.
C'est l'histoire d'une forêt devenue tristement célèbre. En 2014, l'ancienne réserve de Sambisa, située au nord-est du Nigeria, attire l'attention des médias du monde entier. C'est parmi les arbustes épineux de cette vaste étendue que Boko Haram retient les 276 lycéennes de Chibok, enlevées par les combattants islamiques. Dans cette prison à ciel ouvert, les jeunes femmes sont réduites en esclavage et mariées de force. Comme Boko Haram, de nombreux groupes armés s'accaparent les forêts et en font leur repère. Dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu, en RDC, les Mamaï, les forces démocratiques de libération du Rwanda se livrent à des combats. Et ça donne à des trafics illégaux dans une zone délaissée par l'État. Au Sénégal, les derniers combattants du mouvement des forces démocratiques de la Casamance sont eux aussi barricadés depuis plus de 30 ans dans les zones boisées. En Colombie, les FARC contrôlaient des territoires désormais au cœur de convoitises des entrepreneurs agricoles et des narcotrafiquants. Et d'ailleurs, c'est précisément dans cette jungle que certains viennent de décider de retourner après avoir rompu l'accord de paix de 2016. Bref, on le voit, la forêt est à la fois refuge, terrain de guerre, espace de ressources. Un lieu de marge où l'on échappe à la loi des États. Alors comment ces groupes armés utilisent la forêt? Comment ils s'y organisent sur le plan militaire, aussi économique? Comment l'État peut-il espérer en reprendre le contrôle? Les termes de forêt et État seraient-ils viscéralement antinomiques? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités. Roland Pourtier, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être notre invité ce matin. Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris 1, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. À vos côtés, Vincent Fouché, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de recherche au CNRS. Je vais vous proposer une citation pour commencer à l'un et à l'autre. La liberté est fille des forêts, c'est là qu'elle est née, c'est là qu'elle revient se cacher quand ça va mal. C'est ce qu'écrivait Romain Gary en 1945 dans Éducation européenne. C'est vrai que les forêts, ce sont des espaces, on va le voir aujourd'hui, où se négocie, se renégocie la liberté et un espace privilégié pour regarder comment se joue cette opposition, cette confrontation avec l'autorité de l'État, Roland Pourtier.
Alors je ne sais pas si on peut parler de liberté. Moi je dirais que du point de vue étymologique, forêt et sauvage ont la même racine, un salvaticus. Alors le sauvage est-il plus libre que le civilisé? C'est une vaste question éternelle à laquelle je n'apporterai évidemment pas de réponse.
Vincent Fouché, il y a peut-être un autre livre auquel on peut penser. La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, avait écrit Yves Lacoste en 1976, et clairement la forêt semble être un espace géographique privilégié pour faire la guerre.
C'est très spectaculaire. Si on regarde...
Une guerre asymétrique.
Si on fait la carte de la présence de Boko Haram, elle recouvre les zones où Boko Haram, dans le nord-est du Nigeria, est présent de façon dure. Ce sont précisément les zones de forêt, les collines boisées des monts Mandara, et puis cet ensemble de forêts qu'on appelle Sambisa, et puis aussi les marécages du lac Tchad, sur lesquels il y a un couvert végétal, un arbustif, qui permet aussi, qui est décisif, en fait, dans la survie des groupes rebelles.
Il y a la guerre militaire. militaire, mais il y a aussi la guerre de communication. Vous parliez à l'instant de la forêt de Sambisa, où sont reclus un certain nombre de djihadistes de Boko Haram. D'ailleurs, vous allez nous dire quel est l'état de la situation. Mais on voit bien très régulièrement l'armée nigériane organiser des exercices militaires précisément à l'intérieur de cette forêt pour montrer qu'elle la contrôle. C'est-à-dire que c'est aussi un objet de guerre de communication, la forêt.
Oui, c'est un enjeu symbolique. L'armée nigériane a à plusieurs reprises pénétré la forêt, effectivement ramassé des gens, parfois des gens qui vivaient avec Boko Haram de façon volontaire, puis parfois aussi des gens qui avaient été capturés par Boko Haram. L'armée a même annoncé qu'ils allaient créer un champ de tir à l'intérieur même de la forêt pour montrer leur degré de contrôle. Mais en réalité, l'armée nigériane a bien du mal à garder une présence permanente dans cette forêt qui est immense. Et puis, dès qu'ils se retirent, Boko Haram revient et se réinstalle dans ces espaces.
On a une idée là, parce que régulièrement, l'armée nigériane nous dit, ça y est, c'est fini, Boko Haram n'existe plus, le groupe est complètement éradiqué. Et puis, on a des messages de responsables du groupe qui nous expliquent que non, ils sont bel et bien là. Vous pouvez nous faire un point de la situation? Est-ce qu'ils sont là dans la forêt de Sambisa? Combien ils sont? Enfin,
alors c'est très difficile d'être précis sur les chiffres. Disons qu'en gros, on estime que les différentes factions du groupe, qui s'est fortement divisée en 2016, rassemblent plusieurs milliers de combattants à l'heure actuelle. La faction qui contrôle la Sambisa, celle du leader historique, Aboubakar Shekau, étant sans doute plus faible que l'autre. L'autre faction sur le lac est en train de redémarrer, de se réorganiser, de repenser ses relations avec les civils, d'essayer de créer des relations de protection avec les civils pour refonder son économie. Chez Kao, lui, il est plutôt une sorte de pillard qui, depuis les forêts, depuis les collines boisées, fait des raids en pleine pour capturer de la nourriture et puis aussi pour capturer des combattants et des membres, pour essayer de recruter de force femmes et jeunes hommes pour les joindre à son mouvement.
Vous pouvez nous décrire en quelques mots cette forêt de Sambisa, à quoi ça ressemble ?
Alors, il ne faut pas du tout imaginer, on n'est pas en Amazonie, c'est une forêt sahélienne. Donc, ce sont essentiellement des acacias, des épineux, des acacias du Sahel, des épineux très austères. Et assez dispersé, ça n'est pas une forêt dense. Simplement, c'est vrai qu'elle offre un couvert quand on passe en avion. On a l'occasion de le faire quand on prend l'avion de Abuja à Maïdougouri. Et ce couvert est décisif. Quand on parle aux gens qui ont vécu avec Boko Haram, comme captifs ou comme membres, ce qu'ils disent, c'est qu'au fond, les offensives terrestres ne les inquiètent pas. Parce qu'au fond, quand ils voient les camions arriver ou les chars, ils les voient de loin, ils ont le temps de se disperser et puis de cacher ce qui est important et puis de se déplacer de quelques kilomètres pour ne pas être atteints.
Mais de toute façon, les chars ne peuvent pas pénétrer au cœur de cette forêt.
Si c'est une forêt qui n'est pas suffisamment dense. À la saison des pluies, elle est boueuse, elle est difficile, mais en saison sèche, elle est pénétrable par des véhicules lourds. Mais le vrai problème, c'est les avions et les hélicoptères qui peuvent venir très vite, n'importe quand. Et contre ça, les arbres, évidemment, sont une protection décisive. On peut se cacher, on peut ne pas être repéré d'en haut. Et c'est ça qui permet, en fait, à ces communautés de se maintenir.
Et comment les combattants eux-mêmes s'y déplacent?
Alors, ce sont des mouvements qui sont assez agiles, qui n'utilisent pas beaucoup de véhicules lourds. Ils en capturent parfois auprès des militaires, mais au fond, ils ne les utilisent pas. Ce qu'ils utilisent, c'est des 4x4, essentiellement des Toyota et autres. Des motos aussi, beaucoup, au point que d'ailleurs, dans tous les pays du pourtour du lac, dans les zones autour du pourtour du lac, la circulation à moto est souvent interdite. On voit à l'entrée de Difa au Niger un trou avec des dizaines de motos brûlées par l'armée, mais aussi à cheval, en chameau, toutes sortes de modes de déplacement sont utilisés dans ces secteurs.
Et comment on y survit ? De quoi vivent les combattants de Boko Haram dans cette forêt de Sambisa ?
Alors, effectivement, c'est vrai que quand on est au Sahel, on est toujours un peu surpris. Quand on vient de France, on a l'impression que c'est vraiment une terre extrêmement aride. Mais en fait, il suffit d'un peu de pluie pour faire des récoltes assez intéressantes, de mil, certaines formes de maïs. On peut tout à fait survivre dans ces zones-là. Maintenant, le mouvement, en tout cas depuis la Sambisa, c'est un mouvement qui, je l'ai dit, fonctionne beaucoup au raid et à la capture. On va piller des villageois, on va faire des embuscades pour arrêter des véhicules de commerce.
Roland Pourtier, on va parler un peu du Kivu. Donc on est sur un territoire à l'est de la RDC, on n'est pas très loin du Rwanda, pas très loin de l'Ouganda. Aujourd'hui, on y trouve de très nombreux groupes. J'ai parlé des milices Mamaï, on pourrait parler des forces armées de la République démocratique du Congo, on pourrait parler aussi des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, qui sont en fait d'anciens génocidaires rwandais. On va en entendre un justement.
Nous occupons nos positions dans les forêts et l'armée congolaise dans ses emplacements. Il n'y a pas de relation vraiment entre notre armée ou les FDLR avec l'armée congolaise. Parce que s'il en était ainsi, ces opérations coalisées avec le Rwandais, avec le MONUC ou MONUSCO, ce ne sont pas des opérations pour venir nous chatouiller ou bien nous... Hein, c'est pour nous tuer. Nous nous attendons de retourner dans notre pays, mais sinon, il n'y a pas de relation comme telle. Parce qu'il y en a qui disent que nous aidons l'armée congolaise à se battre contre l'armée rwandaise. Non, non, ça on ne fait pas, non, non.
On est en juin 2014, c'était la voix du président des FDLR, le général Victor Biringuiro, pardon. Roland Pourtier, quand on regarde un peu les choses sur le temps long, on se souvient par exemple comment pendant des années, Laurent Désiré Kabila avait utilisé précisément la forêt pour organiser la lutte contre le régime de Mobutu avant d'en sortir, avant de prendre le pouvoir par la force en 1997. En réalité, cette forêt, elle est depuis très longtemps le lieu de la remise en cause des pouvoirs en place.
Vous avez raison, et vous avez raison de citer le maquis Kabila, qui s'était installé dans la région de Fidji, ouais. Non loin du lac Tanganyika, ce qui permettait d'ailleurs des échanges faciles à travers le lac vers la Tanzanie. Et ça a duré pendant plusieurs décennies, hein, puisqu'il s'est réfugié dans ces zones-là après l'échec des rébellions des années 60, jusqu'au début de la grande aventure militaire de la FDL en 1996-97. Alors, ce qu'il y a de très intéressant, en évoquant ce maquis Kabila et les mouvements d'aujourd'hui, c'est qu'on voit bien le rôle que joue la forêt dans toute cette histoire. À la différence de la forêt de Sambisa, on pourrait dire que la forêt du Kivu, du moins dans les parties basses, pas sur les sommets des montagnes qui sont plutôt couverts de savanes herbeuses et qui intéressent les éleveurs, mais dans les parties basses où on a cette grande forêt, c'est une hyper-forêt par rapport à celle de Sambisa. C'est une forêt dense, compacte, humide, extrêmement difficile à pénétrer. Et cette forêt, c'est par exemple...
Là, on n'y va pas en 4x4.
Ah, on y va rarement parce qu'il y a très peu de pistes. Oui. Enfin, il y en a quelques-unes hein, où on peut aller en 4x4, mais c'est comme alors là c'est comme au Nigeria, on circule de plus en plus en moto parce que là on passe plus facilement. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ce milieu de forêt dense, compacte, c'est le milieu de l'invisible. Et c'est l'invisible et du haut et du dedans. Quand vous êtes dedans, vous voyez des arbres, des lianes, de tout ce qu'on veut, des végétations, et puis votre vue s'arrête à quelques mètres. Et quand vous êtes au-dessus, en hélicoptère ou en avion, etc., ben vous voyez la canopée comme une mer de verdure, et on ne voit rien de ce qu'il y a en dessous.
Mais jusqu'où est-ce qu'on peut dire que c'est précisément cette opacité qui est au cœur du régime de violence qu'on voit dans ce Kivu ? C'est une zone qui est en proie aux violences depuis des décennies, peut-être en particulier depuis les années 90, mais en réalité, avant, quand on regarde un petit peu les chiffres, on a un baromètre, malheureusement, un baromètre sécuritaire du Kivu qui s'appelle le Kivu Security Tracker, qui fait état de 1900 civils tués entre juin 2017 et juin 2019. Quand on regarde souvent les racines de cette violence, nombre d'observateurs, nombre d'experts nous expliquent que c'est d'abord et avant tout le résultat des exploitations minières et de groupes armés qui seraient là précisément pour faire de l'argent autour de cette exploitation minière. Et là, vous nous dites que peut-être la forêt aurait un rôle.
Alors, la forêt n'a aucune responsabilité en tant que telle.
Bien sûr.
Mais son rôle
est... Mais que l'environnement topographique serait...
Ben, cet environnement favorise tous les mouvements dissidents, ça favorise le refuge, la fuite, ça favorise la guérilla, ça favorise les embuscades. Et je vous rappelle qu'embuscade, ça vient de l'italien bosco, le bois. Hein. Donc ça favorise tout cela. La forêt est un élément, est un acteur en ce sens. Mais le vrai problème, il est évidemment d'ordre humain. Ce qui vous présente des caractéristiques tout à fait extraordinaires et qu'il faut bien comprendre, frontalier du Rwanda, il a subi depuis des décennies des arrivées assez importantes, parfois massives, de Rwandais à la recherche de terres exploitables. Le problème fondamental du Kivu est un problème foncier. C'est pas un problème minier. Le problème minier est venu après et c'est surajouté. Mais c'est d'abord un problème foncier, démographique par conséquent.
Et politique, évidemment.
Et par conséquent, politique, mais fondamentalement foncier. Les migrants venus essentiellement du Rwanda viennent à la recherche de terres, de pâturages pour leurs troupeaux. Et tout ça s'est très bien passé pendant de très longues périodes, pendant des siècles sans doute. Et à partir des années 60, ça a commencé à se passer beaucoup moins bien parce que les autochtones ont eu l'impression d'être submergés par des étrangers. Et dans certains cantons du Kivu, les étrangers, d'origine étrangère, des rwandophones, étaient devenus majoritaires. Et c'est ainsi qu'on a vu éclater des guerres en 92-93 qui sont directement liées à cette situation. Et catastrophe, le génocide du Rwanda. Plus d'un million de réfugiés Hutus qui viennent vers le Kivu, qui sont installés dans des camps de réfugiés. Et on connaît la suite, la réaction du Rwanda qui détruit ces camps de réfugiés qui représentaient une menace pour leur propre sécurité. Et une partie de ces populations qui vivaient dans les camps s'est retrouvée dans la forêt et a continué à mener son action politique à l'abri de la forêt. Ce sont ces fameux FDLR qui se sont organisés en mouvement politique en 2000.
Je voudrais introduire quelques éléments d'actualité politique justement liés à cette région. Et puis ensuite, Vincent Fouché, vous réagirez aussi. Mais on est peut-être dans un moment particulier là dans ce Kivu-là. On a le mois dernier les présidents rwandais précisément et ougandais qui se sont mis d'accord. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont signé un accord dans lequel ils s'engagent à cesser d'instrumentaliser l'un et l'autre des groupes armés pour déstabiliser le voisin. On a par ailleurs un nouveau président qui est arrivé en RDC, Félix Tshisekedi, qui est allé au Kivu, je crois que c'était au mois d'avril, en disant qu'il allait redynamiser les efforts de l'armée congolaise pour essayer de pacifier la zone. Est-ce que vous avez le sentiment que cette nouvelle donne peut peut-être produire quelque chose et pacifier effectivement ce territoire, ou est-ce qu'au fond tout cela, ce n'est que mirage?
Il ne faut pas avoir le nez sur le guidon et avoir une vision sur le temps long, ou en tout cas sur plusieurs décennies. Et quand on a ce recul, on reste un peu sceptique quant aux conséquences de ces accords entre les chefs d'État. Parce que ces accords, il y en a en permanence. Quand, depuis des années et des années, soit les chefs d'État, soit d'autres représentants de groupes politiques se réunissent, et puis on signe un accord, et puis quelques années après, on voit que la situation est toujours la même. C'est un terrain qui engendre des mouvements de rébellion, et quand un mouvement de rébellion disparaît, pour des raisons très diverses, un autre prend le relais. Et il y a en permanence ces groupes qu'on appelle les Maïmaï, qui sont des milices d'autodéfense paysanne, qui se sont organisées dès les années 1960 pour défendre leur terroir contre ces étrangers. Je reviens toujours à cette idée. Il y a ceux qui se prétendent autochtones, et puis les rwandophones. Et lorsqu'il y a un déséquilibre démographique, les Maïmaï prennent les armes pour protéger leur terroir, leur terre, contre ce qu'ils considèrent être une invasion.
Vincent Fouché, que vous inspire cette situation au Kivu? Levons la tête du guidon.
Bon, il y a évidemment des dimensions démographiques, ce facteur-là est central. Mais il y a aussi, bien sûr, dans toutes ces questions-là, la façon dont l'État fait ou ne fait pas son travail dans la régulation de ces conflits est un aspect important. Et c'est vrai que, notamment au Kivu, on a bien vu à l'époque, dans les années 90, comment Mobutu a utilisé très habilement ces tensions locales dans le Kivu à un moment de démocratisation qu'il avait un petit peu de mal à accepter et donc pour essayer de faire basculer les élections une instrumentalisation assez délibérée par le pouvoir central aussi de ces luttes autour du contrôle territorial dans le Kivu et ça c'est un facteur presque systématique.
Je vais dire une aberration, mais c'est pas grave, ce sera peut-être pas la première fois, mais ce sont des pays où on peut prendre des décisions un petit peu radicales, où on fait pas forcément dans le détail. Régler la question du Kivu, si la question du couvert forestier est aussi décisive dans la permanence de ces conflits-là, pourquoi ne pas couper tous les arbres?
Oui, effectivement, on peut soulever cette question. Je vous rappellerai simplement que les Américains se sont cassés les dents au Vietnam avec les exfoliants, le produit orange, etc.
L'agent orange. Est-ce que c'est une hypothèse qui a été mise sur la table?
Oh non. Non, non. Attendez, il y a une question d'échelle là aussi. Le Kivu, c'est pas la forêt de Sambisa. C'est des dizaines de milliers de kilomètres carrés. Vous pouvez pas imaginer de détruire cette forêt compacte, qui serait un crime d'ailleurs contre la forêt, contre l'humanité. De
toute façon, il y a bien des responsables politiques qui imaginent mettre des bombes atomiques dans les ouragans pour les
dissiper. Non, on fera jamais ça. En revanche, il y a des choses qui sont possibles. Vous avez évoqué tout à l'heure les mines, parce que sous ce couvert forestier, un des problèmes qui explique la pérennité de la guerre, parce qu'on est toujours en guerre au Kivu depuis 30 ans, c'est qu'il y a ces richesses minières du sous-sol, hein, le coltan en particulier, colombo totalite, le tantal dont on a besoin pour nos téléphones portables, etc. Et là, il y en a dans une grande partie du sud et du nord Kivu et du Maniema, c'est-à-dire dans l'ensemble du Kivu. Et ces minerais sont exploités par des populations locales, des creuseurs, des gamins qui descendent dans les galeries au risque de leur vie pour exploiter ce minerai. Et tout cela est contrôlé par des forces militaires. Alors, les forces armées militaires congolaises, les FARC, les FDLR, les Mai Mai, des groupes rwandais, etc. Tout le monde est là, autour des mines, à prélever son pourcentage du petit bénéfice des creuseurs. Et cela entretient une économie particulière, un conflict mineral, comme disaient les Britanniques. Et bien entendu, les intérêts des uns et des autres sont complexes, mais bien réels. S'il n'y a plus cette exploitation minière à l'abri de la forêt, s'il n'y a plus cette exploitation des creuseurs par les militaires, comment va fonctionner l'économie ? Hein ? Et c'est pas en détruisant la forêt, c'est peut-être en changeant le mode d'exploitation minière ou le mode d'exploitation des productions du Kivu par les grandes multinationales qui sont les acheteurs de ces produits.
Oui, sauf que l'économie, elle peut aussi dépendre de l'exploitation forestière. En tout cas, l'exploitation forestière peut permettre de développer l'économie et on sait que c'est central. Cette hypothèse que je fais, Vincent Fouché, un peu sous le sceau de la provocation, elle pose une vraie question, me semble-t-il, derrière, qui est celle de la préservation, précisément, de ces espaces forestiers. On a aujourd'hui, on en a beaucoup parlé depuis le début de cette semaine, des ambitions très fortes en matière de protection des forêts. Et évidemment, on a raison. Parce que bien sûr c'est pour une cause qui est décisive, mais on met en place un certain nombre d'outils. On a parlé hier des mécanismes RED plus, etc., des mécanismes onusiens. On pourrait aussi avancer d'autres outils qui existent depuis bien plus longtemps, la mise en place de parcs nationaux. On a énormément de parcs nationaux dans ce bassin du Congo. Par exemple, là, le parc national du Virunga, il a été créé en 1925. Est-ce que cette logique préservationniste, est-ce que elle ne participe pas, d'une certaine manière, de la permanence de ces conflits? Alors, est-ce que c'est bien de créer des parcs nationaux? Est-ce que c'est bien de créer des réserves, d'empêcher qu'on coupe les forêts? Est-ce que c'est si bien que ça? D'un point de vue environnemental, je ne le discute pas. Je parle d'un point de vue sécuritaire. Et du point de vue de l'économie aussi.
On a eu, et notamment en Afrique australe, hein, un mouvement très fort de création de parcs, de réserves. Mais c'est un mouvement qui s'est fait avec une grande violence, par une expulsion massive. Et c'était pas un hasard si c'était dans des régimes très souvent d'apartheid, hein, avec des expulsions massives de population. Donc il y a, voilà, le conservationnisme a une généalogie discutable en Afrique. Hein, et évidemment les populations vivent assez mal d'être chassées d'espaces forestiers simplement sous le prétexte qu'il faut préserver des éléphants ou des gorilles. Enfin, c'est une négociation compliquée à mener qui peut fonctionner dans certains États. Hein. On essaye de faire des forêts gérées avec les populations. Il y a tous des travaux comme ça dans les zones maritimes aussi pour essayer de trouver des modes de gestion négociés. Mais ça peut poser des problèmes importants.
Roland Pourtier.
Les parcs nationaux occupent des superficies importantes dans le bassin du Congo et au Kivu notamment. Le problème, c'est l'incapacité des pouvoirs publics à contrôler ces parcs, à assurer un minimum de sécurité à l'intérieur de ces parcs. Il y a un organisme qui est l'Institut congolais pour la conservation de la nature, qui fait ce qu'il peut, mais avec des moyens très faibles. Et il a payé cher. Plusieurs dizaines de personnes ont perdu leur vie depuis 20 ou 30 ans. Et par exemple, le parc de Kahuzi-Biega, qui est renommé pour ses gorilles, eh bien, c'est un parc qui, à la fin des années 90, au tournant du millénaire, a été investi par des dizaines de milliers de creuseurs qui sont venus chercher du coltan. Alors là, vous pensez bien que la protection du parc, les gens qui rentrent dans ces forêts, il faut qu'ils vivent. Comment est-ce qu'ils vivent? Ils vivent déjà de la chasse. Donc, ils ont des fusils pour se défendre, mais ils ont aussi des fusils pour se nourrir. Donc, la faune a payé un très lourd tribut. Et donc, la protection du parc, comment est-ce que ça peut fonctionner dans ces conditions? L'État n'a pas les moyens. Les Virunga, c'est un parc magnifique qui comprend plusieurs sections différentes. On estime que la population d'hippopotames a été plus que décimée. Ah, elle a perdu au moins la moitié de ses effectifs. Bon, du fait de la guerre. Et aujourd'hui, les pouvoirs publics sont dans une situation de faiblesse par rapport à de nouveaux acteurs qui n'étaient pas encore présents pendant les périodes les plus chaudes de ces dernières années. Ces nouveaux acteurs, c'est les prospecteurs pétroliers. On prospecte du pétrole dans les Virunga. Alors, il y a évidemment beaucoup de complicité entre les responsables de ceci et de cela pour autoriser ce type de pratique. Alors, les conservateurs de la forêt se trouvent fort démunis devant la pression à la fois de la population et de ces multinationales qui viennent dans l'espoir de puiser du pétrole.
Roland Pourtier, la forêt du bassin du Congo, c'est 2 millions de kilomètres carrés de couvert forestier. On est là au cœur du continent africain. C'est une zone qui est partagée entre plusieurs pays. Il y a le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale. En 2011, vous aviez écrit un article extrêmement intéressant dont je voudrais qu'on parle aujourd'hui, intitulé « Forêt et État », dans lequel vous vous interrogiez sur une possible incompatibilité entre les deux, entre l'État et la forêt, comme si finalement l'État ne parvenait quasiment jamais ou très difficilement à imposer son autorité, sa légitimité dans ces espaces forestiers. Alors je ne sais pas si c'est une constante qu'on retrouve dans l'ensemble du bassin du Congo, mais ce que je voudrais d'abord regarder, c'est est-ce que cette incompatibilité, elle existait déjà avant les indépendances et avant même peut-être l'ère coloniale? Est-ce que cette forêt tropicale du bassin du Congo, elle a toujours été ce lieu où il était quasiment impossible d'y soumettre ses occupants?
C'est une thématique centrale de mes recherches depuis les années 1970. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans tout ce bassin du Congo, et j'ai fait ma thèse sur le Gabon, hein, c'est pas le Kivu, et j'ai étudié au Gabon les conditions de la formation de l'État dans ce milieu forestier. On est passé d'une forêt avec des populations atomisées et qui n'avaient pas d'organisation au-delà du village ou d'un regroupement périodique de villages si on avait quelques mauvais coups à faire. Et on est passé de cette situation-là à un État organisé selon les normes occidentales, selon les normes françaises. Donc ça m'a beaucoup interrogé. Et évidemment, on peut pas faire de géographie sans faire de l'histoire. Je suis allé voir du côté des historiens, et notamment Jean Van Sina, un grand historien belge. Et Jean Van Sina a écrit des ouvrages remarquables, Les royaumes de la savane notamment. Et il montre que dans le bassin du Congo, les grands royaumes qui se sont développés et qu'on a connus à partir de la fin du XVe siècle, royaume de Congo, les royaumes ou empires Luba, Kunda, Lunda, Mangbetu, etc., Zandé. Bon, tous ces royaumes sont en périphérie de la forêt. Parce que la forêt elle-même, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un milieu de l'invisibilité. Et c'est un milieu dans lequel on n'a aucune perspective, aucune vision. Et si vous n'avez pas de vision et si vous n'avez pas de possibilité de déplacement facile d'un lieu à un autre, comment voulez-vous organiser de grands espaces qui seraient soumis à une autorité commune? C'est pas possible. Donc la forêt est un véritable obstacle à l'organisation d'État. Et c'est pourquoi, et ça c'est pas nouveau, les anthropologues, les politistes l'avaient déjà étudié depuis assez longtemps, il y a cette opposition en Afrique entre des sociétés à État et des sociétés sans État, où on disait aussi des sociétés acéphales et autrefois même des sociétés anarchiques.
Et qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Qu'est-ce qu'une société à État et qu'est-ce qu'une société qui n'est pas à État?
Une société à État, c'est une société qui a une capacité de contrôler un grand espace, plus ou moins grand selon les cas, mais de le contrôler de manière efficace, c'est-à-dire de faire en sorte que les populations qui vivent dans ce territoire obéissent aux normes, aux règles, aux lois du pouvoir central, du pouvoir de l'État. Et ce sont tous les royaumes de l'Afrique de l'Ouest qu'on connaît très bien, etc. En Afrique centrale, hein, en dehors de ces royaumes de la savane, en périphérie de forêt, si vous prenez le massif forestier dans son ensemble, ces 2 millions de kilomètres carrés, il n'y avait pas d'État. Il y avait, alors, les premiers voyageurs européens sur les côtes ont décrit des royaumes, mais quand on regarde ce que c'était que les royaumes Pongwe près de Libreville, le royaume Komi un peu plus au sud, ça contrôlait 100, 200, 300 personnes, 2000, 3000 au maximum. On appelait ça des royaumes, c'est tout petit. Il n'y avait pas de grande formation politique. La question étant de savoir pourquoi.
C'est là précisément dans le pourquoi qu'intervient la question du système de production alimentaire.
Alors, et effectivement, il y a deux choses. Il y a d'une part le fait que s'il y a beaucoup de forêts, il y a peu de population. S'il y a peu de population, l'activité sociale se trouve déjà réduite en elle-même par cette faiblesse démographique. Il ne faut pas oublier que cette forêt est une forêt vide. Enfin, je dis vide, entre guillemets. Hein, avec de faibles densités de population, entre 1 et 10 habitants que les mètres carrés selon les lieux. C'est très peu peuplé. Et puis, ce système de production joue un rôle essentiel. Qu'est-ce qu'on produit dans la forêt ? Essentiellement, des racines et des tubercules. Le manioc, depuis le 15e, 16e siècle, quand il a été introduit d'Amazonie par les Portugais, la banane plantain, ce qui sont les deux aliments de base de ces populations, et puis de l'igname, du taro, etc., des courges. Bon, mais c'est surtout la base de l'alimentation, c'est manioc-banane. Prenons l'exemple du manioc. Le manioc, c'est une racine, et lorsque vous la récoltez, il faut la consommer quand même assez rapidement, on en fait une pâte qu'on consomme, ou de la farine, à la mode brésilienne, qu'on consomme assez rapidement parce qu'on peut pas la conserver. Et ce qui est très, très particulier avec ce manioc, c'est que si on laisse les racines dans la terre, elles s'auto-entretiennent pendant des mois, et même jusqu'à une année, sans perdre leur qualité. Et donc, comme disait Brazza, d'ailleurs, fort justement, dans une belle formule, c'est la terre qui tient lieu de grenier. Et ces villages de la forêt ont une caractéristique qu'on voit tout de suite, ce sont des villages sans grenier, à la différence des villages à grenier de l'Afrique occidentale. C'est des villages sans grenier, et c'est ce que j'ai appelé, dans mes recherches, l'Afrique des paniers. Parce que, s'il n'y a pas de grenier, il faut qu'il y ait un acteur qui, de manière permanente, avec de la plantation au village pour transporter le manioc ou les bananes.
Voilà l'opposition, Vincent Fouché, l'Afrique des paniers contre l'Afrique des greniers. C'est ça aussi qui explique la difficulté ou la disposition à faire état. Vincent Fouché.
Alors oui, c'est un facteur. Il y a les travaux de l'anthropologue et politiste James Scott, qui portent plutôt sur l'Asie et puis plus récemment sur la Mésopotamie antique, où James Scott, précisément, il intitule son dernier livre Against the Grain, hein, contre le grain. Enfin, c'est une expression anglaise qui veut dire penser à rebours d'une certaine manière, mais qui veut aussi dire contre les céréales. Et pour Scott, l'exploitation de céréales est un élément décisif, en fait, dans la formation de l'État, parce que la céréale, c'est ce qu'on peut taxer facilement, puisque ça serait récolte seulement à un moment précis, donc il suffit de venir avec ses soldats, et puis on peut prendre les 15 ou les 20 ou les 40% de récolte auxquelles on estime avoir droit puisqu'on est roi. On peut la diviser, la stocker pendant très longtemps, elle a une valeur nutritive, elle se transporte facilement. Bref, l'argument de Scott, c'est que quand on est dans une logique de construction, de centralisation d'un État sur un vaste espace, les céréales, c'est vraiment une ressource décisive. Et il le montre, hein, notamment dans ses travaux sur l'Asie du Sud-Est, il montre bien comment les grands États d'Asie du Sud-Est se créent tous dans des grandes plaines céréalières, hein, que ce soit en Birmanie, au Vietnam, en Chine, etc. Et toutes les zones de montagne, souvent les montagnes boisées, les deltas, sont des zones qui échappent presque structurellement à l'État. Alors, Scott prend un soin extrême, a bien montré qu'il ne faut pas imaginer une sorte d'altérité radicale. Il y a des liens, il y a des circulations. Et en fait, ce qui se passe souvent, c'est que les gens qui ne sont pas très contents d'être dans les zones céréalières vont chercher à s'enfuir vers les zones forestières, où on a un peu plus de liberté, où on peut vivre de manière un peu plus agréable. Et là, c'est vrai que je pense qu'il y a une réflexion très stimulante, hein, sur le rapport entre le type d'environnement naturel et le type de forme politique faisable.
James Scott, donc politologue, l'ouvrage dont vous parliez, c'est Zomia ou l'art de ne pas être gouverné, qui était paru au Seuil en 2013. Oui, Roland Portier,
je voudrais rendre hommage à un ancien, Meyassou, qui avait publié un petit livre tout à fait remarquable qui s'appelle « Femmes, greniers et capitaux », où il montre justement comment le grenier céréalier, comment les céréales à travers le grenier ont contribué très largement à la constitution de l'autorité et à la formation des États, comme l'a rappelé Vincent Fouché. Hein. On peut prélever un tribut sur les céréales. On ne prélève pas un tribut sur le manioc parce qu'il ne se conserve pas.
Alors, cette idée, cette thèse est extrêmement séduisante. On a envie évidemment d'y croire, mais bon, regardons si elle fonctionne. Et Vincent Fouché, je me retourne à nouveau vers vous. Je voudrais qu'on parle un petit peu de la Casamance. Parce que, je redis un peu pour les auditeurs, la Casamance, c'est un des conflits en Afrique les plus vieux qui soient. En réalité, dès l'indépendance du Sénégal, on a un mouvement d'autonomie de la Casamance. Alors, il va se militariser un peu plus tard, dans les années 80, mais il existe dès le départ. Dès le départ, il y a ces velléités velléité d'autonomie du côté de la Casamance. Pour quelle raison? Et là encore, est-ce que la question du système de production alimentaire joue là-dedans? Est-ce que le fait d'être dans un environnement forestier va participer au fond de la construction d'une identité propre en opposition avec celle qui se joue à Dakar? Enfin, est-ce que ça fonctionne avec la Casamance, cette thèse-là?
Alors c'est compliqué.
Parce que j'ai pas l'impression...
Parce qu'en l'occurrence, la zone de Casamance qui est concernée, hein, qui est la basse Casamance, peuplée essentiellement par les cultures Diola, c'est une zone qui fait des céréales. C'est une zone de riziculture. Mais de riziculture très décentralisée. Hein. C'est pas une zone qui fonctionne avec ses grands aménagements rizicoles, ses énormes barrages, enfin tout le dispositif qu'on connaît des rizicultures d'Asie du Sud-Est, par exemple, qui ont une sorte de relation forte avec le projet étatique. Au contraire, hein, dans une petite riziculture de village, très efficace, très très intensive, hein, très savante, mais qui a réussi à se développer à petite échelle. Alors le mouvement qui apparaît dans les années 60 est un mouvement 50, disons. Et un mouvement en réalité qui concerne des cadres qui sont plutôt essaient plutôt de négocier leur part avec Dakar. Hein. Il n'y a pas du tout l'idée d'une séparation à cette époque-là. Mmh. Ce qui se passe dans les années 80, c'est autre chose. Et c'est quelque chose qui va se nourrir de ce premier épisode, mais qui va le réinterpréter, hein, qui va le rebricoler, comme souvent on rebricole les histoires pour faire du futur. Alors la forêt a servi à beaucoup de choses en fait en Casamance, dans le conflit casamançais, à la fois comme espèce de référence symbolique, et c'est vrai qu'il y a dans le discours des séparatistes casamançais cette idée que nous, la Casamance, on a des grandes forêts magnifiques, et regardez au nord du Sénégal, c'est un Sahel pelé, et en fait ils y voyaient une image de l'avidité qu'ils prêtaient supposément aux nordistes en disant regardez ces gens, s'ils viennent chez nous, ils vont tout couper, ils vont prendre nos ressources, et nous on finira dans le désert. Donc il y avait cette sorte d'anxiété aussi, hein, à l'égard des prédations des nordistes. Il y a eu aussi très directement la forêt comme refuge, hein, la grande manifestation violente de 83. Les gens qui s'échappent de cette manifestation, où est-ce qu'ils vont? Ben, ils vont dans la grande forêt qui se situe juste au sud de la Casamance, parce que là, ben, ils peuvent se cacher. Hein, et au début, ils n'y vont pas vraiment pour faire la guerre, mais ils y vont d'abord pour échapper à la répression et aux arrestations. Et ils vont vivre pendant plusieurs années dans cette forêt. Petit à petit, ils vont s'organiser, ils vont se procurer des armes et puis ils vont se lancer dans une véritable opération militaire. Et puis, petit à petit aussi, au fur et à mesure que le conflit dure, ces forêts-là, le MFDC va y pérenniser sa présence, hein, en les minant, en creusant des bunkers de terre, hein, et puis en s'installant durablement et en créant une économie de guerre. Alors on a beaucoup parlé du coltan, on a parlé du pétrole. Là on est vraiment sur une petite économie de guerre forestière. Hein. On parle de huile de palme, on parle de charbon de bois, on parle de bois précieux, de bois, ce qu'on appelle le bois de rose, hein, le veine.
On en a parlé hier.
On parle de cannabis. Voilà, la Chine est grande consommatrice, entre autres, hein, pas exclusivement, mais très grande consommatrice de bois de rose, notamment qui vient des forêts casamançaises. Et donc on a une sorte de petite économie de guerre décentralisée qui se met en place dans les forêts et qui, à la situation actuelle, il y a une sorte de cessez-le-feu plus ou moins tacite entre l'État sénégalais et puis les différentes factions du MFDC. On laisse les factions exploiter leur bout de forêt. Et puis les villageois de ces zones-là, ben, eux, ils essayent de temps en temps d'aller grappiller des ressources dans ce qui était à l'origine leur forêt à eux. Et en fait, les incidents violents de ces dernières années sont complètement liés à ça. Hein. C'est les punitions que certains combattants du MFDC infligent à ces civils qui essayent de venir exploiter des petits bouts de forêt.
Mais pourquoi on n'arrive pas à régler cette question casamançaise? C'est un problème de volonté politique?
Alors, je pense que on le voit bien. Hein,
parce que pour l'État, pardon, pour le coup, le Sénégal, c'est plutôt un État qui a des moyens, dont on dit d'ailleurs souvent que c'est plutôt un modèle de démocratie dans la région. Bon, même si évidemment tout n'est pas parfait, mais je veux dire, voilà, il y a les choses en main.
Alors, je crois qu'il y a la première chose, c'est une revendication séparatiste, c'est toujours difficile à supprimer. Hein. On voit bien comment en Corse, au Pays Basque, en Irlande du Nord, on n'en est toujours pas sorti avec des États pourtant puissants, hein, fonctionnels et démocratiques. La deuxième chose, c'est que, d'une certaine manière, on est dans une situation où la situation actuelle est vivable pour tout le monde. Enfin, pour tout le monde. Est vivable et acceptable pour les autorités, est vivable et acceptable pour les maquisards, parce qu'ils ont leur petit modèle économique. Et évidemment, les gens qui sont dans une situation difficile, ce sont les villageois voisins, hein, de ces zones forestières qu'ils avaient l'habitude d'exploiter et auxquels ils n'ont plus accès. Donc on est dans une sorte d'équilibre sous-optimal, au fond, hein, acceptable par les deux principales, enfin les deux parties les plus puissantes.
Roland Portier, peut-être encore un mot avant d'aller du côté de la jungle amazonienne. Roland Portier, sur le cas de la Casamance?
Je n'ai rien à ajouter sur la Casamance. Hein.
Alors prenons la direction de la forêt amazonienne. Le 29 août dernier, 3 ans après l'accord historique marquant la fin d'un conflit qui durait depuis près d'un demi-siècle, plusieurs anciens chefs des FARC ont annoncé la reprise de la lutte armée, dénonçant la trahison des engagements pris par l'État colombien.
C'est la continuation de la guérilla en réponse à la trahison de l'État des accords de paix de la Havane. C'est la marche de l'humble Colombie, ignorée et dépréciée, vers la justice qui émane des collines du futur.
Voilà, Iván Márquez, ancien numéro 2 des FARC, qui explique son retour aux armes aux côtés d'anciens chefs rebelles, le tout au beau milieu de la jungle du sud-est colombien, visiblement. On va retrouver Jacobo Grajales, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Lille et chercheur au CERAPS, le Centre d'études et de recherche administrative, politique et sociale. Faut se souvenir, Jacobo Grajales, que le commandant Márquez, il avait été donc le chef de la délégation rebelle lors des négociations de paix à Cuba avec le gouvernement du président Santos. Est-ce que ce retour de Márquez dans la jungle marque la fin du processus de paix ou est-ce que c'est peut-être pas aussi simple que ça?
Je pense que la mise en œuvre des accords de paix était déjà en crise depuis quelques temps, au moins depuis l'arrivée au pouvoir du président Duque il y a un peu plus d'un an. Le geste de ces guerrieros n'est que la poursuite de cette crise qui dure, qui se caractérise grosso modo par deux aspects. Un premier, c'est l'échec de la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques qui découlent des accords de la Havane. Cet échec est principalement dû au manque de volonté politique de la part du gouvernement.
Donc ça, c'est Jacobo Grajales, Márquez, il parle pas d'échec, il parle de trahison.
Oui, bien sûr. Alors, on est dans un registre politique, mais si vous voulez, la critique qu'il émet aujourd'hui de façon retentissante, elle est dans le discours d'une partie des FARC depuis déjà plusieurs mois. Je dirais que ce qui est important dans ce geste est moins le fait que ces anciens commandants guerrieros se positionnent en rupture vis-à-vis de l'accord de paix que le fait qu'une grande partie des anciens démobilisés et des commandants des anciennes FARC, eux, ont rejeté ce geste. Mmh. Et qu'aujourd'hui, du coup, on est dans une situation dans laquelle on a effectivement une dissidence politique, hein, une partie de ce groupe qui appelle à la reprise des armes, mais qui, somme toute, semblerait est relativement marginale. Alors là où se trouve le véritable risque est dans le fait que cet appel finisse par être entendu par une partie des troupes, des anciens guerrieros de base, qui, eux, ont été très clairement abandonnés par l'État, puisque les mesures en leur faveur n'ont pas été prises.
Oui, l'ancien président Santos a déclaré que, pour le moment, 90% des anciens FARC étaient toujours dans le processus de paix, donc ça reste marginal. La responsabilité en particulier sur le président Iván Duque dans cette reprise de la lutte d'une partie des FARC?
Alors, en réalité, l'administration Santos n'a jamais vraiment mis sur les rails les politiques qu'elle s'était engagée à mettre en œuvre. L'attitude des responsables politiques à Bogota à partir de 2016, donc de la signature des accords de paix, a été de considérer que l'accord avait été signé, les FARC étaient en train de se démobiliser, ça s'est fait durant l'année 2017, et il ne restait donc plus ou moins plus rien d'autre à faire. Donc une grande partie des politiques de l'accord de paix, en réalité, n'ont jamais eu les financements qu'elles étaient censées avoir, même avant l'arrivée de Duque. Ce qui s'est passé avec Duque, c'est un changement symbolique puisqu'il est allé frontalement à l'encontre des accords de paix en disant qu'il pouvait changer un certain nombre de points, notamment sur le statut juridique des guerrieros, et puis qu'il a fini par détricoter le peu qui avait été fait sous Santos. Mais en réalité, cet accord de paix, depuis le début, il a manqué de volonté politique de mise en œuvre.
Alors, il y a énormément de choses, Jacobo Grajales, dans cet accord de paix. Il y a des choses concernant la présence des anciens guerrieros dans le paysage politique, il y a des choses concernant évidemment le désarmement, des choses concernant la réinsertion. Alors précisément sur la réinsertion, et c'est là qu'on va retrouver notre thème consacré à la forêt, évidemment ces FARC, ils ont vécu pendant de longues années au cœur de la forêt amazonienne, donc ils la connaissent par cœur, à tel point que visiblement l'État colombien a voulu s'appuyer sur tout ça, sur cette connaissance, pour organiser la protection des forêts à travers des programmes de réinsertion. Vous pouvez nous expliquer comment les autorités colombiennes ont sollicité ces anciens combattants pour lutter contre la déforestation?
Alors, je pense qu'il faut faire la part de la rhétorique et de la réalité des gestes de l'État colombien. L'État a effectivement mis en œuvre des gestes affirmant que les anciens guerriers des FARC pourraient participer à la protection de l'environnement, mais aussi par exemple à la destruction des plantations de coca ou de pavots dans leurs anciens fiefs, des choses de ce type. Mais en réalité, une bonne partie de ces démobilisés se sont retrouvés dans des campements où il manquait de l'essentiel des services basiques. Il y avait des campements où il n'y avait pas d'eau courante, où il n'y avait pas d'alimentation. Et ce sentiment d'abandon et le fait que toutes ces politiques soient en réalité, pour le dire très brutalement, limitées à de la communication, est sans doute l'un des facteurs à l'origine de la frustration qu'une partie de cette troupe peut ressentir aujourd'hui.
Oui, puis il ne faut pas oublier que l'une des conséquences aussi peut-être de la démobilisation des FARC, c'est l'augmentation du trafic de drogue. En réalité, il y a d'autres groupes armés qui sont venus occuper le terrain au cœur de la jungle et la production de coca a augmenté.
Alors, il y a des zones relativement rares dans lesquelles l'État aujourd'hui est présent par à la fois ses forces de sécurité et par des services publics d'éducation, de santé, etc. Ces zones-là restent aujourd'hui une infime minorité des anciennes zones d'influence des FARC. Un deuxième cas de figure, c'est des zones dans lesquelles les FARC sont partis et un autre groupe les a remplacés. Par exemple, l'autre guérilla, la guérilla de l'ELN, l'Armée de Libération Nationale, ou alors des milices issues des anciennes milices paramilitaires. Et dans ces zones-là, effectivement, les surfaces ont augmenté selon les dernières enquêtes disponibles. Et la troisième zone, là on retrouve une caractéristique du post-conflit, entre guillemets, en Colombie, c'est des zones dans lesquelles il y a une très forte concurrence violente pour le territoire entre donc des anciens membres des FARC qui s'agglutinent aujourd'hui dans des groupes que l'on appelle des groupes dissidents, essentiellement des milices constituées autour du trafic de drogue, parfois l'ELN et parfois aussi ces anciennes milices paramilitaires. Et tous ces gens-là sont en concurrence pour le contrôle du territoire et pour le contrôle effectivement des plantations de coca et parfois de pavots.
Vous préparez là en ce moment un article consacré aux conséquences du processus de paix sur la gestion des ressources forestières et je crois que l'idée générale c'est que pendant longtemps, c'est assez normal d'ailleurs, la présence des guerrieros empêchait tout simplement l'exploitation de la forêt, mais que depuis précisément 2016 et l'accord de paix, les choses ont changé et l'une des conséquences c'est que la déforestation s'est accélérée. Est-ce qu'on a une petite idée de la proportion aujourd'hui dans les... Est-ce qu'on a une petite idée de ce phénomène de déforestation? Puis ensuite on regardera qui exploite cette forêt et pour y faire quoi. Mais d'abord sur l'ampleur générale du phénomène.
Oui, alors cette déforestation, il y a eu une augmentation très très nette de la déforestation dans les années les deux années qui ont suivi la démobilisation, donc 2017 où les guerriers ont été ramenés dans des camps de démobilisation et 2018. Et puis apparemment les chiffres de ce début d'année 2019 seraient un petit peu plus encourageants, mais ça reste évidemment à confirmer. Alors le phénomène est dû essentiellement à deux facteurs. Le premier facteur et donc, comme vous le suggérez, une amélioration de la situation sécuritaire. Donc, à partir du moment où des entreprises, des particuliers peuvent aller dans ces zones qui auparavant étaient très difficiles d'accès, il y a un risque de déforestation puisque ces gens-là vont développer des activités économiques. Puis ces activités économiques sont essentiellement de l'élevage très extensif et donc là aussi néfaste pour la forêt puisqu'on va abattre des très grandes surfaces de forêt pour y mettre du bétail. L'autre facteur est lui beaucoup plus lié à l'économie criminelle, même si parfois ça peut être les mêmes acteurs, ils peuvent diversifier leurs activités. Il s'agit de la déforestation en vue de produire de la feuille de coca. Et donc les FARC se comportaient parfois en quelque sorte en autorité environnementale puisqu'elles limitaient la surface des plantations de coca, de feuilles de coca, et par ce biais-là empêcher que des pans de forêt soient détruits pour y planter de la coca.
Toute dernière question, Jacobo Grajales. Alors, je sais qu'on ne sait pas exactement où sont les anciens FARC qui sont revenus aux armes, et notamment le commandant Marquez et ses compagnons. Ce qu'il se dit, c'est qu'ils seraient peut-être dans une zone pas très très loin du Venezuela, voire carrément du côté du Venezuela. Est-ce que c'est le cas et est-ce qu'on peut légitimement penser que les autorités vénézuéliennes laissent précisément entrer ces anciens guerrieros pour déstabiliser le voisin colombien? C'est une hypothèse assez plausible.
Alors, il y a deux facteurs dont il faut tenir compte. Le premier est qu'il existe une proximité historique entre certains leaders des FARC et des responsables à l'intérieur du gouvernement vénézuélien. Le deuxième élément est que la situation actuelle du Venezuela fait craindre aux responsables vénézuéliens que la Colombie constitue la base arrière d'une campagne de déstabilisation, puisque la Colombie est l'allié le plus solide des États-Unis dans la région, que l'animosité des responsables colombiens envers le régime vénézuélien est connue depuis très longtemps. Et du coup, l'attitude qui consisterait à considérer que tout ce qui nuit à la stabilité de la Colombie peut être positif pour la survie du régime vénézuélien n'est pas absurde au regard de la situation stratégique dans la région. Mais évidemment, tout ça reste
des
spéculations puisqu'on n'a pas d'éléments pour en juger.
Merci beaucoup, Jacobo Grajales. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Lille et chercheur au CERAPS, le Centre d'études et de recherches administratives, politiques et sociales.
With love and kindness, I will beg him to send you all to heaven.
Heaven, the best place for comfort. Heaven, the best place for comfort. Heaven, the best place for comfort. Heaven, the best place for comfort.
Et un grand merci à nos deux invités ici en plateau, Roland Pourtier. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'Université Paris 1, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Vous me disiez tout à l'heure, on n'en parle pas souvent de cette académie, donc disons-le. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Vincent Fouché, un grand merci également de nous avoir accompagnés. Je rappelle que vous êtes vous chercheur chargé de recherche au CNRS. On mettra en référence les ouvrages, les articles dont on a parlé dans cette émission. Un grand merci à vous. On reprendra notre série consacrée aux forêts demain.
We'll suffer you forever. We'll suffer you forever.
Ce titre de William Oniabor, qu'on se quitte, un chanteur nigérian, Ivan Anhel. On mettra également les références sur la page de Culture Monde. 11h52, l'heure de retrouver Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Parlons un peu d'économie. Les taux d'intérêt sont très bas, l'inflation reste faible. Quelles nouvelles sur le front de l'économie, Brice?
On n'a jamais connu ça dans le passé. Les taux d'intérêt demeurent durablement négatifs. Ils sont inférieurs à l'inflation elle-même très faible. Ce qui veut dire que l'argent est devenu gratuit. On peut s'enrichir en s'endettant. Bonne nouvelle pour les emprunteurs, me direz-vous. Enfin, les jeunes désirant s'installer vont pouvoir emprunter pour rien, tandis que leurs parents, eux, voient fondre leur épargne dans des assurances-vie à la rentabilité négative. Eh bien, pas vraiment. Car l'envolée spectaculaire de certains marchés immobiliers s'explique largement par cette gratuité du crédit. Tandis que votre banquier vous répète « Achetez votre appartement maintenant, je vous concède un crédit ridiculement faible », l'agent immobilier vous explique, lui, que les prix grimpent parce que 25 autres clients convoitent le même 3 pièces que vous, dont des investisseurs étrangers. Bizarrement, les liquidités dont les banques centrales arrosent les économies ne vont pas vers les investissements, pas vraiment vers les marchés d'actions, non, c'est dans la pierre que s'investit tout cet argent. Mais surtout, dans les dépenses courantes des États. Ceux-ci peuvent continuer à fonctionner à crédit, puisque, on vous le répète, le crédit, c'est gratuit. Cette manne, dont ils sont les principaux bénéficiaires, a été conçue pour eux. Si Donald Trump a pu baisser les impôts tout en augmentant ses dépenses, c'est bien grâce au crédit gratuit. Mais il devrait se méfier car l'open bar américain commence à pousser ses clients vers la sortie. La Fed a remonté ses taux un point au-dessus de l'inflation. Mais cet égrasement des taux d'intérêt qui fait partie des fameuses mesures non conventionnelles adoptées pour ranimer l'économie mondiale après la crise de 2008, ont-elles été efficaces? Faut-il les maintenir? Devant leurs effets décevants sur la croissance, faut-il en remettre une nouvelle couche? On s'attend à ce que, à l'issue de leur prochaine réunion, demain, jeudi 12, les dirigeants de la BCE annoncent de nouvelles mesures encore plus exceptionnelles. Mario Draghi, sur le départ, a laissé entendre cet été, en effet, de telles mesures. La Banque Centrale Européenne pourrait baisser à nouveau ses taux et se lancer dans une nouvelle vague de rachat de dettes publiques. Lorsque Christine Lagarde, qui remplacera Draghi à Francfort le 1er novembre, annonce que la BCE a à sa disposition toute une série d'outils et qu'elle est prête à s'en servir, on a du mal à la suivre. Car toutes les munitions de la BCE auront déjà été tirées par son prédécesseur. Taux négatif, rachat massif de dette publique, dépréciation de la monnaie, on a été au bout de tout ce qu'on pouvait de plus non conventionnel. À moins d'envisager, comme le font certains provocateurs, de distribuer gratuitement de l'argent aux ménages et aux entreprises dans l'espoir d'une relance de la relance par la relance, le fameux hélicoptère monnaie. On voit mal comment aller plus loin dans le non conventionnel. Le problème de la BCE, explique Ashoka Modi du FMI, c'est qu'elle n'est pas une banque centrale normale. Elle doit servir les intérêts d'États nombreux qui n'ont pas forcément les mêmes problèmes. Cela explique pourquoi elle a été lente à se lancer dans les politiques non conventionnelles que la Fed, elle, avait adoptées très vite aux États-Unis.
Et puis Brice, les avis des économistes divergent sur ce que devrait faire la Fed de part et d'autre du Rhin.
Oui, en France et en Espagne, on se plaint d'une inflation trop faible et on agite périodiquement le spectre de la déflation. En Allemagne, aux Pays-Bas, on estime que ce risque n'existe pas. Et pour cause, l'inflation est de 0,6% en France, mais de 1,5% en Allemagne. Et voilà pourquoi les Allemands jugent absolument inutile une réduction supplémentaire des taux d'intérêt. D'autant que leur population est vieillissante et qu'elle voit fondre en banque la valeur de son patrimoine. Une autre catégorie de décideurs commence à s'inquiéter et le fait savoir, ce sont les banquiers. À force de prêter pour rien, ils perdent de l'argent. Leurs profits plongent. Une nouvelle baisse des taux risque de faire plonger sérieusement les banques. Autre défaut du système du crédit gratuit, il y aurait un fort pourcentage d'entreprises zombies, en particulier en Italie. Non rentables, elles perdent de l'argent, mais leurs patrons les maintiennent en survie en empruntant de quoi tenir encore un mois, puis encore un mois. Et il pourrait bien y en avoir aussi un certain nombre d'entreprises zombies en France aussi. Un jour ou l'autre, par exemple à la suite des élections présidentielles américaines, la Fed va remonter ses taux. Pour éviter que les capitaux européens prennent le chemin des États-Unis, la BCE sera bien obligée de suivre le mouvement. Et ce jour-là, les États et les particuliers surendettés se retrouveront dans de bien sales draps.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut trouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.